Voilà, donc au niveau de l'Esprit de Dieu, dans son ensemble. En Genèse 1, chapitre 1, verset 2, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, de l'eau. C'est la première mention du Saint-Esprit. Plus loin, au verset 26, nous lisons, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le fait d'utiliser le pluriel dans ce même chapitre, faisons l'homme à notre image, suppose que c'est probablement une allusion à la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit, qui sont les trois, c'est la même personne avec trois fonctions différentes. Et c'est une référence pour dire que l'Esprit est aussi Dieu. Dans la période vétérotestamentaire, quel était le rôle de l'Esprit? Comment il agissait? Après la chute, donc le péché d'Adam et Ève, le désordre, la débauche s'installèrent. Alors Dieu dit en Genèse chapitre 6, verset 3, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » D'autres versions disent « Ne contestera, ne restera pas. » Donc il y a deux interprétations tout petit peu différent. Donc il vivra 120 ans, c'est la décision de Dieu. Et on voit d'après ce verset que Dieu n'a pas laissé son esprit contester avec l'homme, mais il a mis une limite avec l'homme, avec la vie de l'homme. La durée de vie de l'homme, juste avant de mettre cette limite, pouvait varier jusqu'à 969 ans pour Mathusalem. C'est un des plus vieux que la Bible raconte, puis il y en a qui ne sont pas morts. Hein. Enoch, par exemple, a été enlevé sans qu'on sache ce qu'il est devenu. Quoi. Enfin, on pense que c'est Dieu qui l'a rappelé. En Nombre 11, les versets 4 à 26, lors de l'Exode dans le désert, les Hébreux se plaignaient de manger continuellement la manne, au point de regretter la nourriture égyptienne. Ils voulaient même un moment retourner en Égypte. Là, la colère de Dieu s'enflamme et fortement. Moïse est attristé. Il est attristé et il se plaint de la charge que le peuple représente pour lui. Une charge énorme d'emmener tout ce monde sur le chemin que Dieu trace. Alors, Dieu demande à Moïse de rassembler 70 personnes, 70 anciens. On les retrouve en Exode 24, les versets 1 à 9. Et il leur demande de rassembler et de se retrouver à la tente de rencontre. Et là, Dieu va prendre l'esprit, une partie de l'esprit qui est sur Moïse, et il va le partager avec ces personnes. Ces 70 personnes qui vont partager la charge du peuple avec Moïse. Donc cet épisode nous montre qu'à cette époque, malgré la relation privilégiée de Moïse avec Dieu, quand on voit la vie de Moïse, comment Dieu le suivait, l'encourageait, quand il a refusé d'aller en Égypte pour les 10 plaies, parce qu'il dit « moi j'ai pas la langue » et tout ça, Dieu a demandé à son frère Aaron de se faire l'interprète. Dieu parlait à Moïse, Moïse parlait à Dieu. Moïse parlait à Aaron, qui lui parlait à Pharaon. Et on voit qu'il y avait une symbiose énorme entre Dieu et Moïse. Et malgré cela, on voit Moïse dans la faiblesse. Moïse qui se plaint parce que la charge est trop lourde. On aurait pu penser, il est tellement près de Dieu qu'il peut tout faire. Et en fin de compte, ce n'est pas le cas. Moïse reste un homme, tout comme vous, tout comme nous. C'est un message pour nous qui nous montre qu'avec notre appartenance à Dieu, nous ne sommes pas des surhommes et qu'il faut savoir partager les responsabilités avec d'autres. Nous venons de voir l'action et le partage de l'Esprit dans le domaine de la gouvernance, gouverner le peuple d'Israël. L'Esprit intervient aussi dans le domaine pratique. Emmener le peuple, c'est une chose, le conduire, c'est une chose, c'est gouverner. Et dans le domaine pratique, on va voir aussi comment il agit. Dans la construction du tabernacle, avec tous les ustensiles qui le composent, les ouvriers qui sont choisis par Dieu ont une particularité. Tu peux allumer, s'il te plaît ? Dieu les a équipés de son esprit pour les rendre capables d'exécuter les travaux. Je vais lire dans Exode, on peut lire ensemble, dans Exode 35, les versets 30 à 34. Moïse dit aux Israélites, sachez... Ah d'accord. Moïse dit aux Israélites, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence, de savoir-faire pour faire toutes sortes de travaux. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes d'œuvres d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habileté pour réaliser tous les travaux de gravure et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, cramoisi, et le fin lin pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Dieu a équipé donc ces hommes. Et un travail particulièrement spectaculaire, c'est ça. Pourquoi il est spectaculaire? Parce qu'il est fait d'une seule pièce. Il a fallu 60 kilos d'or pour réaliser ce chandelier. Donc, 60 kilos d'or d'une seule pièce. Pas de soudure. Aujourd'hui, on a peut-être soudé les éléments. Pas de colle. Hein? Pas de moulage, c'est-à-dire ça n'a pas été moulé. C'est un artisan, peut-être celui qu'on a lu tout à l'heure, mais comme il était capable aussi d'enseigner, peut-être qu'il a formé des gens pour forger cette pièce. Vous vous rendez compte, 60 kilos d'or en un seul bloc, arriver à faire un chandelier aussi beau, je ne crois pas qu'on puisse le faire aujourd'hui, simplement en forgeant avec un marteau une enclume, hein, même si l'or est très malléable. Voilà, ça, c'est un exemple qui est... Bon, il n'y a pas que le chandelier, hein, y a tous les tapis, la cuve d'or, l'arche et tout. Bon, je ne voulais pas tout montrer les éléments, mais on voit que, pour moi, je trouve que c'est fantastique quand on connaît un peu ce que c'est que la matière, de faire ça d'une seule pièce en partant d'un lingot d'or de 60 kilos, parce que j'ai le manier, hein, le manipuler. Voilà. Bon, tu peux arrêter si tu veux. Bon, il y a une signification spirituelle, hein, au chandelier, mais je n'ai pas prévu de la développer avec l'esprit, l'huile, etc. Non, je m'arrêterai là. L'action du Saint-Esprit, c'est une intervention manifeste de Dieu lors du jugement. Par exemple, l'Esprit de Dieu fut sur Balaam, qui devait maudire le peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais... Dieu lui avait interdit d'aller maudire le peuple d'Israël parce que Balak lui demandait de le faire. Et malgré tout, Balaam y va. Balaam y va et il a été coincé deux ou trois fois contre un mur à tel point qu'il se révolte contre son âne. Et puis son âne se retourne, lui dit « Mais pourquoi tu me tapes ?» Et puis là, l'âne lui parle. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle à Balaam et qui lui dit « Mais je t'avais dit de pas aller, mais maintenant que tu es sur le chemin, vas-y. » Donc, l'Esprit de Dieu fut sur Balaam qui devait maudire le peuple d'Israël. Et il fait tout le contraire, Balaam. À plusieurs reprises, Balak lui demande, viens de cet endroit-là, tu vas voir le peuple, tu vas le maudire. Au lieu de le maudire, il le bénit. Il l'emmène sur un autre endroit et Balaam, de nouveau, au lieu de maudire le peuple, le bénit. Et puis Balak se fâche. Et puis, au grand désespoir, Balaam continue de bénir le peuple. Et puis il dit à Balak, il dit, mais écoute, je ne peux pas maudire le peuple du moment que Dieu me dit me commande de le bénir. Et puis quand on connaît la fin de Balaam, il finit tué, assassiné. Donc il finit pas sa vie de manière naturelle. D'autres exemples aussi du domaine pratique. Moïse choisit Josué, son successeur, parce que l'esprit résidait en lui. On connaît aussi l'histoire de Josué, c'est celui qui a succédé à Moïse, qui a conduit la conquête du pays de Canaan. Donc il a mené les armées, il a fait le tour de Jéricho cette fois, etc. La bataille d'Aï. Ils se sont ramassés parce qu'ils se croyaient plus forts que les autres et donc ils ont perdu la bataille, mais après ils sont repentis et Josué a pu vaincre et gagner cette bataille d'Aï. À l'époque des juges, l'Esprit de l'Éternel a joué un rôle décisif dans les combats d'Israël. Il y a eu 12 juges, d'Othniel à Samson. Ils étaient tous revêtus de l'Esprit de Dieu et délivraient le peuple de ses ennemis. Mais quand le juge mourait, eh bien, le peuple retournait à l'idolâtrie. Le livre des juges se termine par ce verset. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de conduite précise. Et au lieu de se référer, que les Israélites se réfèrent à Dieu, ils faisaient leur propre vie parce qu'il n'y avait plus de juge pour les conduire sur le bon chemin. C'est en Juges 21, verset 25. Autre exemple où la volonté de Dieu utilise son esprit. Après la désobéissance de Saül, Saül a offert un holocauste alors qu'il devait attendre Samuel pour offrir l'holocauste. Et il n'y avait que Samuel qui pouvait offrir l'holocauste sur l'autel. Et lui, il a voulu prendre les devants et il l'a fait. Donc, désobéissance. Ensuite, c'était interdit d'aller voir des voyants. Et Saül s'est déguisé. Il est allé voir une voyante. Et la voyante a reconnu, malgré le déguisement, a reconnu Saül. Et là, ça, c'était aller contre Dieu parce que c'était interdit. Et Saül a été... Dieu a ôté l'esprit de Saül. Et après ses désobéissances, le prophète Samuel lui annonce que Dieu l'a rejeté. On peut le lire dans 1 Samuel 15, le verset 22. Nous lisons aussi dans 1 Samuel 16, le verset 14. Samuel 16, verset 14. Voilà. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Donc, on voit que à ce moment, dans la période vétérotestamentaire, l'Esprit de Dieu ne restait pas en permanence sur les hommes. Dieu le donnait à qui il voulait et le retirait quand il voulait en fonction de la conduite des hommes, de la personne, de la fidélité de la personne à Dieu. Donc la présence de l'Esprit n'était pas acquise définitivement. Par exemple, David... À certains moments de sa vie, c'est pas précisé, mais quand on voit ce qu'il a fait, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas être avec lui. Alors, le point 4, c'est qu'en est-il aujourd'hui après la venue de Jésus-Christ? On peut se poser la question. Je me la suis posée, d'ailleurs. Il y a une promesse de Jésus dans Jean 14, versets 15 et 16, où il dit... Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, d'autres versions disent un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, car il reste avec vous et sera avec vous. Vous voyez déjà cette différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. afin qu'il reste éternellement avec vous. C'est-à-dire à partir du moment où Jésus est venu, il envoie ce consolateur, l'Esprit, on le voit aussi à la Pentecôte, les gens reçoivent l'Esprit, mais ils le reçoivent définitivement, il est en nous. Cette promesse se renouvelle, l'annonce que Dieu a fait au prophète en Joël 3:1. 800 ans auparavant, c'était il y a 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. 800 ans avant la venue de Jésus, en lui disant qu'après ce temps-là, il déversera son esprit sur tout être humain. Ce temps-là, c'est la période de débauche de la nation, sous le règne d'Athalie et de Joas. C'est au moment de Joël, ça. Hein? Donc, la nation vit dans la débauche. Il donne ça. Dans ces 800 ans, il y a eu 400 années de silence pendant la période intertestamentaire, c'est-à-dire le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau, 400 années sont écoulées où il y a eu un silence total de la part de Dieu. Pas de communication, pas de miracle, rien ne nous est rapporté. Donc, silence total. Mais cette période, donc, qui est silencieuse, a permis à Dieu de mettre un cadre politique et religieux parfait pour que le ministère de Jésus se déroule. Pour permettre au ministère de Jésus-Christ de faciliter la propagation de l'Évangile, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et le grec, à cette époque-là, était très répandu dans le monde. Langue comprise par beaucoup de monde. Question, quand est-ce que nous recevons l'Esprit de Dieu? Je vais lire acte 19, les versets 2 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse. Après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples et il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance » en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Donc, Paul arrive à Éphèse, rencontre ses disciples, il leur demande « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» Puis eux, ils répondent, enfin, on l'a lu, ben on ne sait même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Ouais. De quel baptême avez-vous été baptisé ? Baptême de Jean-Baptiste. Mais le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême d'eau et un baptême de repentance. Là, on recevait pas les gens ne recevaient pas le Saint-Esprit par ce baptême-là, après ce baptême-là. Donc ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus et le Saint-Esprit vint sur eux. Dans sa deuxième lettre à Timothée, 2 Timothée 1,14, Paul demande à Timothée de prendre un modèle sur lui grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. Donc nous recevons le Saint-Esprit au moment où nous acceptons le sacrifice de Jésus à la croix, au moment où nous demandons à Christ de venir nous pardonner, nous nous repentons de nos péchés, nous venons à la croix, Dieu nous pardonne, Jésus-Christ nous accepte et son esprit entre en nous à ce moment-là, l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de délai, hein? L'Esprit Saint sans délai, sans intervention humaine, sans autre condition que leur foi toute simple en Jésus-Christ. C'est comme ça que nous recevons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le lien qui unit tous les chrétiens du monde et il constitue l'Église de Dieu. et que nous allions n'importe où, il y a un lien, je veux dire, pratiquement automatique, si vous avez un petit peu voyagé dans d'autres pays, entre les chrétiens. Lorsqu'on arrive, la relation est tout à fait différente et on sent qu'il y a quelque chose de différent en nous. Donc, contrairement à l'ancienne alliance, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous le recevons de manière permanente et définitive. En Éphésiens 13, 14, il est dit: En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il y a une empreinte en nous de l'Esprit de Dieu qui fait que nous ne pouvons plus faire, pas faire n'importe quoi. Alors, ça m'entraîne sur le sixième point. Que fait ou que devrait faire l'Esprit dans notre vie? Que fait ou que devrait faire l'Esprit dans notre vie? En Éphésiens 4, 23, il est dit: nous aider à nous renouveler dans notre intelligence, nous aider à renouveler l'homme nouveau, à revêtir, pardon, l'homme nouveau. En Actes 2, verset 10, il avertit Paul à plusieurs reprises sur les dangers qui le menaçaient en particulier. Le prophète Agabus est venu de Judée. Il s'est attaché les pieds, vous connaissez peut-être l'histoire, hein, il s'est attaché les pieds et les mains avec la ceinture de Paul. Et il dit: Voici ce que je te déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des non-Juifs. Nous connaissons la suite de la vie de Paul. Donc, l'Esprit avertit Paul de ce qui va se passer. En 2 Corinthiens 3, 17, nous dit le Seigneur, pardon, 2 Corinthiens 3, 17 nous dit: Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. J'ai dit tout à l'heure, l'Esprit devrait faire quelque chose ou devrait faire quelque chose. Parce que la liberté de choix que nous donne Dieu, Christ, nous permet de refuser ou d'accepter certaines directives de son transmise par son esprit, avec leurs conséquences qui peuvent être positives ou négatives. En général, si on refuse de marcher avec l'esprit de Dieu, les conséquences sont négatives. En général, ces conséquences n'arrivent pas du jour au lendemain. Hein? On peut avoir refuser quelque chose hier, au jour hier, 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière, il y a eu des conséquences, et ces conséquences, on peut les payer à aujourd'hui, c'est-à-dire 10, 15, 20 ans après. Certains donnent leur vie à Jésus, mais gardent un jardin secret où ils ne laissent pas l'esprit pénétrer. De ce fait, ces personnes sont déséquilibrées. C'est un peu comme on marche dans la rue, un pied sur le trottoir et un pied sur la chaussée. On est déséquilibré, hein, on ne marche pas bien. Un coup avec Dieu, un coup sans Dieu. Un coup avec l'esprit, un coup sans l'esprit. Ça ne fonctionne pas. Ça me fait penser à un ancien moniteur, c'est vieux ça, il y a au moins une trentaine d'années. Il s'appelait Jolie. Et de Saint-Étienne, c'était un chef d'orchestre sur Saint-Étienne, autant que je me souvienne. Et puis, dans son témoignage, il a dit qu'il avait tous les disques de Johnny Hallyday. Et quand il s'est converti, il les a mis sur son grenier. Et puis, ça le chagrinait. Et puis, au bout d'un moment, il a dit: Non, je ne peux pas faire ça. Et il a pris les disques, il les a tous bazardés. Parce que pour lui, c'était une tentation d'aller écouter cette musique de Johnny Hallyday. C'est un témoignage qui nous a donné. Donc, pour que l'esprit puisse travailler dans nos vies, il faut faire place nette dans nos vies, lui laisser notre cœur complet, pas dire: Attends, non, j'ai un petit jardin secret, là, tu mets pas les nez. D'accord? Donc, il faut vraiment que notre cœur soit entièrement à Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 5 à 16, lorsque Nicodème rencontre Jésus, il est stupéfait des prodiges que Jésus fait. Il reconnaît que c'est Dieu qui l'a envoyé. Nicodème reconnaît vraiment que tu es un homme de Dieu, c'est Dieu qui t'a envoyé. Jésus répond, à moins de connaître, de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème, voyant Jésus, se posait la question. Puis Jésus lui dit, écoute, il faut que tu naisses de nouveau. Et puis, mais est-ce que je peux rentrer dans le... C'est Nicodème hein, qui dit, est-ce que je peux rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Non, c'est pas ça. La nouvelle naissance, c'est accepter Christ dans sa vie. Notre vie, et puis là, il parle du vent. Hein. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, et tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne née de l'esprit. Ça veut dire quoi? Notre vie est conduite par l'esprit, mais comme nous venons de le voir, nous ne savons pas où il va nous emmener sur cette terre. Mais nous savons que la vie éternelle, dans la présence du Seigneur, est l'ultime but de notre vie. C'est-à-dire que sur cette terre, l'esprit nous conduit. Et puis, nous ne savons pas où il nous conduit. Mais nous savons une chose, qu'il nous conduira dans la vie éternelle, avec le Seigneur notre Dieu. Nous vivrons éternellement avec eux. La providence de Dieu nous ferme ou nous ouvre des portes. Lorsque vous faites le point des étapes décisives de votre vie, est-ce qu'à votre adolescence, vous les auriez imaginées se réaliser pour aboutir où vous en êtes aujourd'hui? Je ne pense pas. Vous avez, nous, à notre âge, avec Ghislaine, on a fait le point de... parce qu'on nous a demandé de parler de notre vie. Donc, on a fait le point. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des étapes. Vraiment, on ne pensait pas ça. Et on a été conduit par Dieu. Et je me souviens, quand j'avais 18 ans, si on m'avait dit... Bon, j'étais originaire de cette ville, hein, du Creusot. Si on m'avait dit qu'à cette époque, je prêcherais au Creusot, jamais je l'aurais cru. Hein, j'aurais dit, mais vous êtes fou, quoi. Donc, j'aurais dit, je ne pense pas. Je ne connais pas votre vie. Mais s'il a dit... Ouais. Je me serais même moqué. Hein, si on m'avait dit ça. Et puis, le dernier point, pourquoi la Pentecôte? Alors, la Pentecôte célébrait la fin des moissons de l'orge et le début de la moisson du blé. Appelée aussi fête des semaines. Et pourquoi fête des semaines? Parce qu'elle est fixée 7 semaines après l'offrande de la gerbe d'orge. C'est la première des fêtes relatives aux récoltes. En Lévitique 23, les versets 15 et 16, et le verset 21, la date de la Pentecôte est fixée 50 jours après la Pâque, qui elle-même, est la Pâque est fixée d'après le calendrier lunaire. C'est pour ça que d'une année sur l'autre, encore aujourd'hui, la Pâque, ce n'est pas forcément fin mars, début avril, ça varie en fonction du calendrier lunaire. Et puis, c'est une prescription perpétuelle. Je ne l'ai pas lu, mais prescription perpétuelle, c'est écrit dans le livre du Lévitique, chapitre 23, versets 15 et 16, et le verset 21. En Palestine, la fête durait une journée. En Palestine, une journée. Mais dans les autres pays, c'était 2 jours. Et nous, on continue de célébrer la Pentecôte en 2 jours. En conclusion, nous devons retenir que l'Esprit de Dieu habite dans chaque personne qui se repent de ses péchés et a accepté le sacrifice de Jésus à la croix en payant le prix du pardon de nos péchés. Il est reçu sans délai, immédiatement. Et il agit dans tous les domaines de notre vie, si nous lui laissons carte blanche et ne lui mettons pas d'entrave avec nos idoles qui ne devraient plus exister. Amen.